Salutations à tous. Amis, aspirons-nous à la prophétie. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, désire léguer aux chrétiens un testament de son vivant. Il écrit, chapitre 1, verset 13, « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Alors, Pierre est pressé par le temps et la connaissance qu'il mourra d'une mort violente. Il continue au verset 15. « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Alors, de quoi Pierre veut-il qu'on se souvienne exactement? Il continue. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Alors, Pierre désire que nous nous souvenions de la puissance et de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même a vécu une expérience sur la montagne qu'on appelle souvent la transfiguration. Alors, il dit au verset 17, « Car Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, l'expérience que Pierre a eue avec quelques-uns de ses collègues a été comme une démonstration de puissance et une démonstration que sa venue en tant qu'être humain est pleine de promesses d'avenir. Continue au verset 18. « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » L'expérience de Pierre a connu donc un moment de révélation intense lorsqu'il a entendu lui-même la voix du Père approuvant de toute son affection son Fils. Et c'est là qu'il continue, verset 19. Il va faire le lien avec l'importance de la prophétie. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de porter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, cette parole qu'il nous donne est prophétique. Elle provient de la bouche même de Dieu. Nous savons et nous avons l'Évangile qui nous présente cette parole prophétique trois fois. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Au baptême de Jésus, Jean l'Immergeur en a été témoin. Sur la montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean en ont été témoins. Et dans la semaine qui précède l'arrestation de Jésus-Christ, l'apôtre Jean le témoigne également. Si vous voulez voir la référence, c'est selon Jean 12, versets 1 à 28. Je ne m'y reporterai pas, vous pouvez bien sûr vérifier. Il continue toujours dans la lettre de Pierre, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Autrement dit, on ne peut pas se servir de la prophétie comme nous le voulons. Alors, Pierre nous dit que non seulement peut-on entendre la voix prophétique de Dieu, comme Jésus et ses proches l'ont entendu, dans laquelle Dieu déclarait qu'il est un Dieu d'affection, mais que toute prophétie des Saintes Écritures représente Dieu qui parle aux hommes, qui parle avec les hommes. Et cela ne doit pas être pris comme une façon que les hommes comprennent Dieu ou une façon qu'ils perçoivent ou s'imaginent que Dieu s'adresse aux hommes. Ça doit être pris comme la vérité, comme la réalité. Il ajoute, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de qui? De la part de Dieu. Alors la Bible est pleine de prophéties qui déclenchent l'imagination, qui nous mettent au défi de chercher une marche plus proche avec Dieu pour mieux le connaître, pour mieux savoir sa pensée. Alors aujourd'hui, nous allons nous avancer un peu dans notre propre aspiration à la prophétie. Aspirons-nous à la prophétie. La prophétie en hébreu, névoa, est cruciale pour le peuple de Dieu. Elle façonne le mode de vie du peuple de Dieu, ses espoirs, ses attentes, et elle pointe vers l'ère messianique à venir, c'est-à-dire l'ère où l'instauration du royaume de Dieu sera effectuée. Le terme pour prophétie, Néaveia, est lié au terme Nivsephatayim, qui signifie le fruit des lèvres. Ce fruit est ce qu'un prophète produit à travers les paroles que Dieu lui a inspirées. Et ces fruits-là sont pour la gloire de Dieu. Tout au long de la Bible, Dieu a nommé des prophètes pour expliquer sa parole à la lumière des événements d'actualité et d'encourager son peuple à suivre, dans les circonstances qu'il vivait, les instructions de Dieu. Dieu a aussi chargé ses prophètes de révéler des événements futurs afin de les avertir des conséquences des péchés et du plan que Dieu allait mettre devant eux. La prophétie distingue l'histoire du peuple de Dieu de toute autre nation. Par exemple, nous savons que Dieu a envoyé Moïse et Aaron à Pharaon et aux Hébreux. Il a envoyé Élie au royaume du nord d'Israël. Il a envoyé Samuel au roi Saül. Il a envoyé Nathan au roi David. Il a envoyé Jonas pour les habitants de la cité de Ninive. Tous ces prophètes ont révélé à une personne ou à une nation comment ils enfreignaient la volonté de Dieu et les tragédies qui allaient leur arriver pour avoir continué dans leur faute. On pourrait dire donc que Dieu a donné à Israël d'abord les prêtres comme cadeau pour faire respecter les lois de la Torah, des instructions de Moïse, et effectuer les cérémonies quotidiennes du service du temple. Mais Dieu aussi a donné à Israël les prophètes, les Néviim, pour les encourager à accomplir leur destin en tant que peuple élu de Dieu, pour être une lumière pour les païens, afin que le salut puisse atteindre éventuellement les extrémités de la terre. Et ça, nous voyons ça, entre autres, dans Ésaïe 49, verset 6. En fin de compte, le peuple d'Israël, en tant que nation, si on regarde dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas accompli leur mission. Le royaume du Nord, comme vous savez, a choisi de suivre des rois qui n'étaient pas de la lignée davidique. Et ils ont fait des autels aux dieux païens et ont mêlé leurs affaires et leurs mariages avec des adorateurs païens de d'autres nations. En conséquence, les gens ont été exilés hors de leur terre et dispersés, au point qu'eux-mêmes, la plupart, ont perdu leur identité. Alors que leur désobéissance continuait, les prophètes révélaient constamment plus de détails sur le Messie à venir, qui les sauverait de leurs péchés, de leur façon de vivre destructrice. Ils ont prédit ce qu'il ferait, le Messie, sur la terre, et même comment et quand il mourrait. C'est très important, donc, de comprendre le rôle des prophètes. Les prophètes ont également prédit des détails importants sur des événements qui allaient conduire à l'ère messianique, c'est-à-dire ce fameux millénaire de paix et de joie où le Messie lui-même régnerait sur la terre, le futur glorieux de l'établissement du royaume de Dieu. Alors, nous connaissons un prophète comme Moïse. Je vais citer pour vous Nombre 12, verset 6. L'importance de la prophétie, l'importance de rechercher les paroles du prophète. Nombre 12, verset 6 jusqu'à 8. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. » Il fait quand même le contraste ici, qu'il y a même un degré plus élevé de contact entre Dieu et un prophète. « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle en toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » En général, lorsque la parole de Dieu utilise le mot « prophète », c'est-à-dire « Lévi », des hommes tels que Samuel, Isaïe, hein, Daniel nous viennent à l'esprit. Mais revenons quand même à l'idée que Moïse était considéré comme un prophète unique, dans ce fait que Dieu lui a parlé face à face. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre de Deutéronome, au chapitre 34, verset 10, nous voyons cette notion d'un prophète parmi tous les autres prophètes qui était le plus grand. Il n'a plus pari en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Alors, tous les autres prophètes de la Bible, à l'exception de un dont nous allons parler très bientôt, n'ont pas vécu une relation aussi étroite et personnelle avec le grand Créateur. Au lieu de cela, ils ont reçu leur message par le biais de rêves, de visions, de révélations. Il y a une limite imposée, autrement dit, à la façon dont un prophète peut se rapprocher de Dieu. C'est parce qu'il est dit que l'homme ne peut pas vivre s'il voit Dieu. Moïse a été une exception. Mais ce qui est étonnant, c'est que lui-même, Moïse, va annoncer qu'il y aura une deuxième exception. Et on lit ça dans Deutéronome 18. Regardez ici que Moïse a annoncé la venue d'un prophète comme lui. Il s'agit bien sûr, nous le savons maintenant, de Jésus le Christ, le Messie, loin de l'Éternel. Il dit ceci, Deutéronome 18, 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et voyez comment on s'entendait déjà à l'époque de Jésus. On était toujours en attente de ce prophète. On savait qu'il n'était pas encore venu, mais qu'on voulait voir. Selon Jean, l'évangile selon Jean 1, 21, regardez comment c'est phrasé. Les gens, n'est-ce pas, sont excités à la venue d'un homme comme Jean-Baptiste qui, oui, prophétise dans le désert, annonce des choses. Ils se demandent, tout d'un coup, c'est le prophète annoncé par Moïse. Alors, ils posent la question, ils demandèrent à Jean-Baptiste, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? » Autrement dit, celui annoncé par Moïse. Il répond, « Non. Déception. » Mais Jésus l'a confirmé qu'il était ce prophète quand il a dit, selon Jean 5, verset 46, « Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car il a écrit de moi. » On vient de voir ce que Moïse a écrit de lui, c'est que Dieu susciterait d'entre les frères un prophète comme Moïse. Alors, comme Moïse, nous savons que Jésus a parlé avec Dieu face à face. Il a reçu la révélation de Dieu ouvertement et non pas par le biais d'images, de métaphores, d'allégories. Il comprenait la volonté de Dieu dans sa totalité, dans sa plénitude. Remarquons maintenant ce que Jésus a déclaré quelques moments auparavant dans le même chapitre selon Jean, chapitre 5, donc verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Les visions ou la mission de Jésus étaient directement vécues par Jésus en contact avec le Père qui le guidait pas à pas dans sa mission. Il répondait aux directives du Père. Alors, comme Moïse, Jésus était un médiateur entre Dieu et les hommes. Il a prononcé les paroles de Dieu au peuple, mais en plus, Jésus a offert son propre corps, sa propre vie, pour mourir pour les péchés du peuple. Parce qu'il y avait justement des prophéties qui disaient que ce prophète allait vivre de telle chose. Ce serviteur de Dieu allait donner sa vie pour payer pour nos péchés. En nous lisant dans la lettre aux Romains, la réflexion de Paul au chapitre 8, verset 34, « Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Donc, nous avons affaire à un intercesseur, un médiateur qui est toujours vivant. C'est ce fameux prophète qui avait été annoncé, mais qui avait une mission tout à fait spéciale, mourir pour nos péchés, et qui n'est nul autre que le Fils de Dieu lui-même, qui est maintenant vivant et qui intercède ou qui fait la médiation avec le Père. Parlons un petit peu maintenant de rêve, de vision, n'est-ce pas, et de présence angélique. Alors que Moïse et Jésus ont reçu la révélation directement de Dieu, on énumère environ 57 prophètes dans la Bible, dont les paroles ont été d'ailleurs enregistrées dans les Saintes Écritures, pour les générations futures, et ceux-ci ont reçu leur communication sous la forme de paroles et d'actions divinement inspirées par des visions, par des révélations, mais aussi par des visitations d'anges. On va voir quelques exemples. Ça devrait commencer vraiment à nous stimuler dans notre amour pour vouloir comprendre davantage la prophétie, désirer, aspirer à la prophétie. Le livre d'Ézéchiel, par exemple, s'ouvre avec le prophète recevant une vision de Dieu d'un trône mobile extrêmement éclatant et qui envoie Ézéchiel à la maison d'Israël. À l'époque, Ézéchiel est un prêtre exilé. Il avait été déporté à Babylone avant d'autres déportations. Et tout au long du livre, Ézéchiel reçoit des visions significatives, telles qu'il va voir la résurrection des morts. Il va assister à une scène incroyable de squelettes qui reprennent vie. Il va voir la guerre à venir avec les nations voisines. Il va avoir les détails en plus de la construction d'un troisième temple à venir, qui n'a pas encore été construit, qui sera construit au retour glorieux de Jésus-Christ. Alors tout ça, imaginez tout ça qui est révélé à un seul homme, en plusieurs étapes. Un autre excellent exemple de quelqu'un qui a reçu la prophétie par les rêves est Joseph, le frère des 11 autres, qui a rêvé, vous vous souvenez, dans un songe, de les gerbes de blé qui s'inclinaient, les gerbes de ses frères qui s'inclinaient devant lui. Ça n'a pas été un message populaire. Ça a été vu d'une façon jalouse et même avec colère. Dans les écrits après Jésus, il y a de nombreux cas où nous voyons justement Jésus lui-même, mais aussi des confirmations à l'entourage de Jésus. Prenons son père, Joseph. Il reçoit une visite angélique d'un ange directement par songe qui va l'avertir qu'il peut garder Marie comme son épouse, même si elle est enceinte sans que lui-même y ait participé. La vision lui dit, garde Marie parce que cette naissance vient directement de Dieu. Après sa naissance, Dieu a utilisé encore des rêves deux autres fois avec Joseph Il s'agit ici de Joseph, le père de Jésus, pour l'avertir, entre autres, du danger qu'il courait, son enfant courait, que Marie courait, à cause du roi Hérode, de s'enfuir en Égypte. Et imaginez, et remercions Dieu, qu'il a pris ça au sérieux et qu'il s'est réfugié en Égypte, sauvant ainsi la vie de Jésus. Pour retourner, l'ange aussi lui est apparu dans une vision pour lui dire « Il est maintenant temps de revenir ». Après la naissance de Jésus, nous voyons un prêtre nommé Zacharie qui reçoit directement dans le temple de Dieu la visite angélique d'un ange qui s'appelait Zacharie, qui s'appelait Gabriel, et qui lui dit « Le nom de ton fils devra être Jean ». On a aussi même la femme de Pilate qui montre, était-elle juive, on ne le sait pas. Mais une chose certaine, c'est que Dieu peut envoyer des visions à qui il choisit. La femme de Pilate va recevoir en songe une vision avertissant son mari de ne pas se mêler au procès de Jésus, de ne pas s'interposer. Un autre exemple, sur la route de Damas. Un homme qui s'appelait Saul de Tarse, qui poursuivait les disciples de Jésus après, bien sûr, sa résurrection, reçoit lui aussi une vision qui le met complètement à bas, qui le jette à terre. Et bien sûr, il entend une voix qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Voyez les exemples qui se multiplient, même après la venue de Jésus. Pierre a une vision dans laquelle Dieu lui a dit de ne pas appeler impurs ceux qui étaient non-juifs, parce que Dieu les rendait purs. Cette vision a préparé Pierre à rendre visite, bien sûr, comme vous le savez, à Corneille, qui lui-même, Corneille, un Romain, un soldat romain, a reçu lui aussi l'intervention d'un ange dans sa vie. Et au cours du ministère de Paul, nous voyons qu'il reçoit plusieurs visions qui l'ont dirigé dans différentes phases de son ministère auprès des païens. Exemple, lorsqu'il était une fois dans le temple, en prière, il a reçu, n'est-ce pas, une vision. Un autre, Jean, alors qu'il était en prison sur l'île de Patmos, il a reçu combien de visions? J'en ai compté environ 58 visions par lesquelles nous savons maintenant ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ. C'est intéressant de voir jusqu'à quel point Dieu fonctionne ainsi. Dieu utilise la prophétie. Dieu parle par la prophétie. Bien que Dieu nous ait donné sa parole écrite pour nous guider, il peut communiquer et communique encore avec son peuple à travers les rêves et les visions. Les rêves et les visions sont différents les uns des autres parce que Dieu s'adapte à chaque personne et a un message différent selon son plan. Nous savons, par exemple, que M. Armstrong, au début de son ministère, a été guidé, parfois, par un ange. Nous savons, entre autres, qu'un jour, un ange s'est saisi du volant de la voiture pour l'amener jusqu'à quelqu'un pour le guérir. La tradition juive soutient que la Bible mentionne spécifiquement, donc, une cinquantaine de prophètes hébreux, mais elle mentionne aussi sept prophétesse hébraïque à Israël, qui avait des rêves et des visions. Et d'ailleurs, on ne pense pas toujours qu'Isaac avait aussi reçu des prophéties, mais c'est le cas. Il a reçu, entre autres, la vision des anges qui montaient et descendaient vers le ciel, qui était bien sûr prophétique. Et Jésus va même utiliser ces paroles-là pour expliquer que cela parle de lui. Josué a reçu des visions. Sarah, Myriam, Esther même, Abraham, voyez-vous, ce sont tous des noms qu'on connaît. Et leur profession dépendait peu, n'est-ce pas, n'avait pas d'influence sur le fait qu'ils pouvaient être utilisés par Dieu pour recevoir des connaissances divines. Exemple, Ézéchiel, oui, Jérémie était prêtre. Amos, lui, était un berger, un gardien d'arbres, ou plutôt un espèce d'agriculteur, mais pour les arbres. Élisée, lui, c'est un laboureur. Daniel, oui, d'accord, a occupé de hautes fonctions dans le gouvernement. Donc, ça peut être de tous les métiers. Ces hommes se sont qualifiés comme prophètes, non pas à cause de leur statut social, chers amis, mais à cause du choix de Dieu. Maintenant, la grosse question, et là-dessus, parfois, les chrétiens sont divisés. Les prophètes sont-ils pour aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est que du passé? Pour les disciples de Jésus, toutes les Écritures données avant et après la première venue de Jésus-Christ doivent être prises en compte pour déterminer la légitimité d'un prophète. Autrement dit, n'est pas prophète celui qui se dit prophète, est prophète celui que Dieu dit prophète. Toute prophétie, bien sûr, nous dit aussi la parole de Dieu, doit glorifier et honorer Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent à Dieu reçoivent le Saint-Esprit comme signe ou sceau de leur relation éternelle avec Dieu. Mais Dieu veut responsabiliser les croyants en leur donnant un ou plusieurs dons spirituels, ce qui peut inclure des paroles de sagesse. Si vous voulez savoir un peu sur les dons spirituels, vous pouvez vous reporter et vérifier les différents dons, par exemple, listés dans la première lettre de Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 11, ainsi que le verset 28. Il y a la lettre aux Romains aussi qui liste certains dons spirituels, c'est-à-dire des dons qui sont accordés directement par Dieu selon son bon vouloir à ses enfants. La lettre donc aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8, en nomme quelques-uns. Mais de tous les dons que Paul, entre autres, a identifiés, il a distingué la prophétie, souhaitant que tout le monde... Remarquez que Paul parle aux enfants de Dieu à Corinthe, qui n'étaient pas des enfants de Dieu toujours exemplaires, mais il leur souhaitait quelque chose, qu'ils aient les dons spirituels, mais d'aspirer surtout à un don en particulier, que nous pouvons lire dans la première lettre aux Corinthiens 14, première lettre aux Corinthiens 14, c'est un petit peu plus loin, au verset 1. Bien sûr, il dit d'abord, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels dans un sens, parce qu'ils devraient vous aider à développer cet amour, vous motiver, faire une cohésion, une unité dans le corps. Aspirer au don spirituel, mais surtout, remarquez bien, à celui de prophétie. Verset 5, il ajoute, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Donc, il y a une préférence ici, il y a comme une cible prioritaire. Et frères et sœurs, je peux vous annoncer que ça pourrait être pour bientôt. Du moins, je vais plutôt laisser le prophète Joël vous le dire. Joël 2. Ce passage-là a été cité par Pierre à la Pentecôte. Et nous vivons de cette époque de la Pentecôte. Nous sommes sur la lancée de cette Pentecôte, cette première Pentecôte après la résurrection de Jésus-Christ, qui allait être beaucoup plus significative pour les prémices, hein, pour ceux qui allaient appartenir à Dieu, pour recevoir cette fameuse promesse, cette meilleure promesse de la vie éternelle. Alors voyons Joël 2, parce que ça a été cité par Pierre et il va l'appliquer à notre époque. Alors voici ce qu'il dit. Après cela, c'est Joël qui parle ou qui écrit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Il va qualifier qui ils sont. « Vos fils, vos filles prophétiseront. » Et remarquez, vos vieillards auront des songes. Intéressant parce que le mot vieillard est le même que le mot ancien, dans l'hébreu et dans le grec. Et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, mes serviteurs, mes servantes. Autrement dit, je vais d'abord répandre ce don sur ceux qui me servent. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges pour comme stimuler cette démonstration. Dans les cieux sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil se change en ténèbres et la lune en sang. C'est que ce sont des signes qui annoncent le retour de Christ. Justement, il dit avant l'arrivée de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors Pierre, comme je l'ai dit tantôt, va dire, ça s'accomplit maintenant. Les derniers temps commencent. Et frères et sœurs, nous sommes beaucoup plus près du retour de Christ que Pierre, n'est-ce pas? Nous sommes presque 2 jours plus tard, on peut dire dans le langage biblique du temps. Alors, il va dire que, vu que Christ, notre Pâque, a été immolé, les derniers jours ont commencé. Autrement dire, l'accomplissement littéral de la Pâque et de la fête des pains sans levain, la prochaine étape, ça a été la Pentecôte, et la Pentecôte est vraiment le signe des temps de la fin. Alors maintenant, voyons comment justement le livre des Actes va confirmer que l'activité prophétique a été déclenchée dans l'Église de Dieu. Voyons Actes 21. On va voir quelques exemples pour montrer que ce qui a été annoncé à la Pentecôte par le prophète Joël, si vous voulez, s'est accompli. En fait, je pourrais dire, a commencé à s'accomplir. Nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée, est entré dans la maison de Philippe l'évangéliste. Donc, il s'agissait d'une personne qui d'abord avait été serviteur des veuves, mais que Dieu avait utilisé aussi pour prêcher en Samarie, qui était l'un des 7, ces fameux 7 serviteurs. Nous logeâmes chez lui, donc il aimait pratiquer l'hospitalité. Remarquez le verset 9, portez bien attention. Il avait 4 filles vierges, donc très jeunes probablement encore, qui prophétisaient. Oui, c'était normal. Du moins, c'était spirituellement normal. Comme nous étions là plusieurs jours, un prophète, voyez-vous, ça suit là. Il y a 4 filles qui prophétisent, Philippe, mais il y a aussi un homme qui s'appelle Agabus, mais lui, il est nommé, non seulement il prophétise, mais il est officiellement un prophète. Il est reconnu comme un prophète. Il est nommé Agabus. Et il vient de Judée, c'est un petit peu plus au sud, et il vint nous trouver, donc plus au nord, à Césarée. Et là, il fait quelque chose que seulement les prophètes, dans un sens, peuvent recevoir, je dirais, comme signification. Il voit une ceinture. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il voit une ceinture. Si on regarde bien le contexte, c'est qu'il ne savait pas que c'était la ceinture de Paul. Il voit une ceinture, il la prend, c'était celle de Paul. Il se lie les mains et les pieds avec cette ceinture. Alors, il travaille avec une main, je ne sais pas exactement comment il a fait. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, remarquez, ce n'est pas une très bonne nouvelle, semble-t-il. Hein? Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront aux mains des païens. Alors, il annonce quelque chose de solennel, quelque chose de grave, avec un signe extérieur. Alors, nous voyons comme quoi Dieu envoie ses prophètes pour préparer ses disciples, préparer ses enfants à des événements qui vont les bousculer un peu, mais qui ont une signification pour l'avancée personnelle de chacun d'entre eux dans leur marche vers Dieu, mais aussi l'avancée de l'Église, de l'Assemblée de Dieu. Ainsi, à mesure que les derniers jours nous rapprochent du retour de Jésus le Messie, nous devrions nous attendre à une augmentation de la présence de Dieu à travers son Saint-Esprit et à des manifestations, des révélations de ses dons, en particulier le don de prophétie, à travers quoi? Vos jeunes gens auront des songes. Les anciens, les vieillards auront des visions. La question, sommes-nous prêts? œuvrons-nous avec notre Père pour lui laisser développer en nous l'amour envers lui et notre prochain. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu veut être certain que lorsqu'il envoie ses dons, ils soient utilisés avec amour. C'est prioritaire, que ce soit pour le bien des autres, pas pour notre gloire personnelle, pas pour notre vanité, mais pour le peuple de Dieu, pour le glorifier, lui. Alors, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous connaissons ce passage-là, mais remarquons dans quel contexte il est donné. Il est donné entre les dons spirituels listés dans le chapitre 12 et l'indication par Paul qu'il faut aspirer surtout aux dons de prophétie. Et en plein milieu, nous retrouvons 1 Corinthiens 13, verset 2, qui dit ceci. Quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors voyez-vous pourquoi Dieu doit nous développer d'abord dans son amour avant que nous puissions gérer, je pourrais dire, les manifestations, n'est-ce pas, des dons spirituels, notamment celui de prophétie. Alors, chers amis, je vous encourage à aspirer aux dons de la prophétie et à vouloir vous pencher davantage sur les paroles prophétiques données dans les Saintes Écritures. Plus nous serons aguerris dans ces Saintes Écritures, dans la partie prophétie, plus nous pourrons gérer les révélations que Dieu veut donner à son peuple. Ainsi, vous pourrez répondre à la question qu'a posée Jésus-Christ. Souvenons-nous de cette question. Il a dit ceci, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Nous pourrons répondre « Oui ».